Voice of Indonesia.
Bonsoir, c'est Greta. Comment allez-vous? Je suis très heureux de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en français et de vous dire depuis Jakarta. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes, le journal, le commentaire et d'autres infos, à savoir l'histoire aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel Apprendre l'Indonésien et les chansons indonésiennes. Bon, serviteur, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, l'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 33,25 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Bonsoir à tous, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal et on commence avec le titre. L'Arabie Saoudite aidera à la construction d'une mosquée à Donggala. Les lampes solaires illuminent 16 villages à Bengkulu. Les îles de Réunion veulent que la compagnie aérienne soutienne le secteur du tourisme. L'association des diplomates de l'Institut agricole de Bogor a formé une équipe d'experts en matière de catastrophes basée sur l'agriculture. Les entrepreneurs de l'alimentation ont estimé la valeur de l'industrie 4.0 avec de nombreux avantages. Le monde apprend maintenant des fonds de village en Indonésie. Charami nous présente maintenant le régional complet. Le gouvernement saoudien aidera à la construction d'une mosquée endommagée par des catastrophes naturelles à Palu et Donggala dans le centre de Sulawesi. Selon le président du conseil de la mosquée indonésienne, Syafruddin, qui est également le ministre de la réforme administrative et de la réforme bureaucratique, a déclaré dimanche à Jakarta que cela a été révélé lors qu'il a tenu deux réunions importantes en marge de l'Umrah dimanche avec deux responsables du gouvernement saoudien. Syafruddin a rencontré Muhammad Al-Sharif, le chef du bureau de l'immigration de Jeddah et le vice du musée de la maison du prophète Ahmad Al-Ghatan à la Mecque. À cette occasion, Muhammad Al-Sharif a déclaré son intention de fournir une assistance pour la construction de la mosquée. Syafruddin a discuté avec Ahmad Al-Ghatan des projets de la construction du musée du prophète dans le complexe de mosquée Al-Markaz à Makassar. Le chef du bureau de l'immigration de Jeddah espère que l'assistance qui sera fournie pourra aider les musulmans des régions touchées par les catastrophes, notamment Palu et Donggala, à retrouver une dévotion totale au culte. La Direction générale des énergies nouvelles et renouvelables et de la conservation de l'énergie du ministère de l'Énergie et des ressources minérales de la République d'Indonésie a distribué 2111 unités de lampes solaires à économie d'énergie à la communauté de 16 villages de Bengkulu. Cette lampe solaire à économie d'énergie est un programme du gouvernement central destiné à fournir un accès à l'information aux populations des régions troatées telles que isolées, défavorisées et ultra-périphériques. Cela a été dit par l'inspecteur général de l'énergie et des ressources minérales, Ahmad Syahroza, à Bengkulu, dimanche. Selon Ahmad Syahroza, l'installation des lampes solaires à Bengkulu a été faite dans 5 régions, réparties dans 8 villages qui atteignent 1288 unités. En outre, il existe 403 unités dans la région du nord de Bengkulu, réparties dans 3 villages et 2 sous-districts. L'installation de lampes à énergie solaire à économie d'énergie est ensuite effectuée dans le district de Seluma, qui compte 249 unités, réparties dans 3 villages et 2 sous-districts. Et ensuite, dans les régions de Kaur, il y a 120 unités réparties dans un village. Et enfin, il existe 101 unités de la région de Lebong réparties dans un village dans un district. Le gouvernement provincial des îles de Riau espère que la compagnie aérienne soutiendra le secteur du tourisme en ouvrant des liaisons aériennes de divers pays à la région. Le chef du bureau de tourisme des îles de Riau, Bura Limar, à Tanjung Pinang, a déclaré que les compagnies aériennes pourraient collaborer avec les entreprises du secteur du tourisme afin de leur permettre de vendre des forfaits vers les îles de Riau à des prix abordables, comme par exemple l'augmentation de la visite touristique en provenance de Chine dans les îles de Riau est commencée par des forfaits touristiques avec le soutien de la compagnie aérienne Lion Air. Il a dit que le nombre de touristes en provenance de Chine avait augmenté presque 100% en 2018 par rapport à 2017. Il souhaite cibler des touristes étrangers non seulement de Chine, mais aussi d'autres pays potentiels. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Le conseil de direction centrale de l'Association de diplômés de l'Institut agricole de Bogor, ou IPB, a formé un organe autonome spécial de l'équipe d'experts en cas de catastrophe afin de contribuer à la gestion des catastrophes et à la réhabilitation basée sur l'agriculture. C'est ce qu'a déclaré Walnek Esdias, le secrétaire général du conseil de direction centrale de l'Association des diplômés de IPB, après avoir annoncé le départ de l'aide destinée aux victimes de tsunami à Banten et à Lampung dans la ville de Bogor, Java Occidental, dimanche. Selon Antara, en créant un organe autonome sous la responsable du conseil d'administration de l'Association des diplômés de IPB, qui serait composé d'experts et de diplômés compétents en matière de gestion de catastrophes, tant pour intervention d'urgence que pour les processus de réhabilitation, notamment dans l'autonomisation des communautés basées sur l'agriculture et les ressources naturelles et la réhabilitation de l'environnement, les résultats et les avantages plus maximaux. Pour la deuxième fois, l'Association des diplômés de IPB a envoyé l'aide aux victimes de tsunami du détroit de Sonde à Banten et Lampung. L'Association des entrepreneurs indonésiens de l'alimentation et des boissons, ou GAPMI, considère que la révolution industrielle 4.0 promue par le gouvernement à travers The Making Indonesia 4.0 avait de nombreux avantages pour l'industrie. Le président de GAPMI, M. Adi S. Lukman à Bengkulu, a déclaré que cela contribuait grandement à améliorer la compétitivité. Cela signifie que de point de vue de la production, il peut réduire les déchets, la production est plus surveillée et une logistique plus soignée. Selon Adi, plusieurs industries d'alimentation et de boissons en Indonésie ont commencé à mettre en œuvre des programmes industriels 4.0 dans plusieurs de leurs secteurs d'activité. Les industries des produits alimentaires et des boissons qui étaient prêtes à mettre en œuvre la révolution industrielle est une grande entreprise disposant assez de capital. Le succès du gouvernement indonésien dans le développement, notamment les infrastructures rurales, par la budgétisation des fonds villageois, a attiré l'attention du monde. Le ministre indonésien du village, développement des zones défavorisées et de la transmigration, M. Eko Putro Sanjoyo, a déclaré dans un communiqué de presse cité par La Repubblica récemment que de nombreux autres pays étaient intéressés par l'application du fonds villageois. Le ministre a déclaré qu'au moins 23 pays apprennent à l'Indonésie pour le modèle de budgétisation des fonds du village. Le succès de l'utilisation des fonds villageois basé sur enquête interne du gouvernement atteignant 85% a suscité l'intérêt d'autres pays pour voir directement son application. C'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Voice of Indonesia.
Chers journalistes, auditeurs, voici le commentaire d'aujourd'hui ayant le titre « Avant le débat sur l'élection présidentielle de 2019 ». 2019 est l'année politique pour l'Indonésie. car le 17 avril 2019, l'Indonésie organisera les élections générales. Cette année est spéciale parce que l'Indonésie organise les élections de la Chambre des représentants, ou DPR, le Conseil des représentants régionaux, DPD, et également les élections générales du président et du vice-président pour la période 2019-2024. Même s'ils s'est tenu ensemble, ces élections du président et du vice-président qui attirent l'attention du public. Comme on le sait, cette fois, il y a deux candidats à la présidente et à la vice-présidente d'élection présidentielle, à savoir Joko Widodo et Maruf Amin, et Prabowo Subianto et Sandiaga Uno. La période de campagne se déroule du 23 septembre 2018 au 13 avril 2019. Les débats de candidats à la présidente et des candidats à la vice-présidente est l'élément le plus intéressant de la campagne électorale des présidents et vice-présidents. La Commission électorale générale KPU organisera 5 débats en tant qu'organisateur d'élections en Indonésie. 2 débats présidentiels et vice-présidentiels, 2 débats vice-présidentiels et 1 débat de candidat et à la vice-présidente. En outre, le KPU a également défini des thèmes, des panélistes et des horaires pour les télévisions qui organisent les premiers et cinquièmes débats. Le débat présidentiel et vice-présidentiel, ce n'est pas quelque chose de nouveau pour la politique en Indonésie. Aux élections de 2014 et aux élections régionales simultanées de 2018 ou Pilkada, le KPU a également tenu un débat sur les candidats. Lors du débat, les électeurs peuvent les candidats du président et du président et connaître leur vision et leur mission. Contrairement à la mise en œuvre précédente, dans le débat cette année, les deux candidats recevront une liste de questions qui seront soumises par le jury quelques jours avant le débat, afin que les deux candidats puissent être mieux préparés pour fournir des réponses clair et approfondi. On espère que cela aidera le public à faire des choix en fonction de leurs aspirations. Le débat devrait se dérouler naturellement et sainement. Jusqu'à présent, le débat présidentiel et vice-présidentiel a souvent été mené avec un sentiment de réticence. Bien que cela soit étroitement lié à la culture nationale indonésienne, l'essence du débat devient parfois invisible. Cela signifie pas qu'ils doivent débattre en s'attaquant les uns et les autres et ne respectant pas les normes en Indonésie. Le candidat à la présidence et à la vice-présidente ainsi que l'équipe de succès et ses supporters devrait pouvoir maintenir l'unité de la nation. Chers auditeurs et auditrices, c'était le commentaire pour ce soir.
Voice of Indonesia.
Bonsoir à tous. Voici l'histoire d'aujourd'hui. Nous commençons avec l'événement de 7 janvier 1965. L'Indonésie a décidé de se retirer de l'ONU. Le 7 janvier 1965, lors d'une réunion géante devant des dizaines de milliers de personnes, le président Bung Karno a déclaré la République d'Indonésie a quitté les Nations Unies. C'est parce que les États-Unis ont accepté la Malaisie qui est considérée par le gouvernement de la République de l'Indonésie est un État fantoche formé par la Grande-Bretagne en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. La menace de la République d'Indonésie a en fait été lancée le 31 décembre 1965, lorsque Bung Karno a menacé les Nations Unies s'il continue à accepter la Malaisie en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le prochain événement était en 1979. Pol Pot et Khmer Rouge ont été renversés par les forces du Vietnam. Pol Pot était le chef du Khmer Rouge et le premier ministre cambodgien de 1976 à 1979. On a beaucoup blâmé son gouvernement pour la mort d'environ 2 millions de Cambodgiens. Après 8 ans de gouvernement Khmer Rouge, le Vietnam envahit le Cambodge et le 7 janvier 1979, les forces vietnamiennes ont réussi à occuper la ville de Phnom Penh. Maintenant, le dernier, le 7 janvier 1984, le Brunei Darussalam a rejoint de l'ASEAN. Brunei, auparavant, était une colonie de l'Empire britannique située au nord de l'île de Kalimantan, riche en ressources pétrolières et gazières. Après avoir mené précédemment un long processus de négociation entre le sultanat de Brunei et l'Empire britannique, le Brunei a finalement été décidé à obtenir l'indépendance le 1er janvier 1984. Et le 7 janvier 1984, le Brunei Darussalam a rejoint le 6e membre de l'ASEAN. Chers auditeurs et auditrices, c'était l'histoire d'aujourd'hui.
Jambu luruh di kotamu, ku ayun sendiri langkah-langkah sepi, menikmati angin menabuh daun-daun, mencari gambaranmu di waktu lalu, sisi ruang batinku rindukan pagi tercipta nelangsa merenggut sukma terwujud keinginan yang tak pernah terwujud aku tak bisa pindah ke ku harus menepi hiduplah ditambatkan berlabuh di pantaimu sisi ruang batinku hampa rindukan pagi tercipta nelangsa I'm not afraid.
Serviteur, c'était la chanson intitulée « Ne pas pouvoir passer à un autre corps » chantée par Kla Project. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, l'Indonésie pour le monde. Et voici donc mon Indonésie intitulée « Les exportations d'horticulture augmentent de 12% en 2018 ». Serviteur, pour la rubrique suivante, voici donc mon Indonésie et pour le titre « Les exportations d'horticulture augmentent de 12% en 2018 ». Après avoir libéré les exportations de légumes dans l'ouest de Bandung, jeudi, le ministre de l'Agriculture, Andi Amran Sulaiman, a poursuivi sa visite en publiant des exportations d'autres produits horticoles dans la région de Banjaran, dans la région de Bandung, vendredi. Ces produits comprennent du mangoustan et des légumes exportés vers la Chine, Singapour et Hong Kong. Les données du ministère de l'Agriculture montrent que les exportations horticoles indonésiennes telles que légumes, fruits et fleurs ont augmenté de 11,92%, représentant plus de 5 trillions rupiah en 2018 vers les 113 pays. Le ministre Amran Sulaiman a déclaré qu'après avoir pu augmenter la production et la compétitivité, c'est le temps pour l'Indonésie d'augmenter les exportations et les investissements. Amran Sulaiman a déclaré que la réalisation de la tendance des exportations horticoles devait augmenter en 2019, y compris les exportations de mangoustan qui pourraient augmenter de 500%. Selon Amran, les efforts du ministère de l'Agriculture pour encourager les exportations sont une priorité, notamment en réduisant les licences. Amran a souligné que les efforts d'amélioration de la qualité en accord avec la demande des pays de destination, car les produits agricoles ont des conditions strictes en matière d'hygiène et de sécurité. L'approche a également été faite afin que les produits indonésiens puissent pénétrer dans d'autres pays, y compris les expéditions vers le pays de destination sans transit comme auparavant. Les résultats sont clairs. Des entreprises comme Alamanda Société Anonyme à Bandung peuvent exporter 42 produits de base de légumes, de fruits et de plantes ornementales. Le volume des exportations est d'environ 10 000 tonnes par an vers 12 pays tels que Singapour, la Malaisie, la Thaïlande, Hong Kong, la Chine, Dubaï, l'Arabie Saoudite, le Pakistan, l'Inde, le Bangladesh et l'Australie ainsi que la Nouvelle-Zélande. Les exportations de légumes de la Manda Société Anonyme devraient atteindre 200 tonnes par mois avec divers types, à savoir 12 produits de base de légumes, 29 fruits et plusieurs plantes ornementales. Les fruits non saisonnières, y compris goyave rouge de 2 tonnes, melon roc de 20 tonnes et zelaka de 4 tonnes. Pendant ce temps, les fruits de saison exportés sont entre autres le mangoustan avec une production estimée à 500 tonnes par saison et les mangues à 100 tonnes par saison. Amran espère qu'à l'avenir, outre le nombre croissant de produits répondant aux besoins nationaux, les produits seront également de haute qualité et compétitifs sur le marché international. Selon lui, le ministère de l'Agriculture a fait de nombreuses mesures pour accroître la production agricole, notamment en distribuant des machines agricoles jusqu'à 1500%. Encourager l'innovation en offrant des incitations aux chercheurs et en mettant en œuvre d'autres programmes d'aide à la production. Serviteur, c'était mon Indonésie pour ce soir.
Voice of Indonesia.
Salahmu, kau buat aku.
Serviteurs, c'est à la deuxième chanson intitulée Tes trois fautes, chantée par Bunga Citra Lestari. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, l'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 33,25 kHz et sur le site web www.voinews.id. Bon, serviteurs, maintenant nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien. Bonsoir, serviteurs. C'est un plaisir de vous rencontrer à nouveau dans le magazine culturel en programme quotidien sur le tourisme, l'alimentation, les arts et la culture de diverses régions d'Indonésie. Dans l'édition d'aujourd'hui, nous allons vous présenter Madobak, un village touristique situé à l'ouest de Sumatra. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, l'Indonésie pour le monde. Le village de Madobak a plusieurs cultures traditionnelles uniques comme attraction principale. Il y a une maison traditionnelle qui est bien connue avec le nom Uma. Il y a aussi une cérémonie traditionnelle qui est présentée comme Sikere. Le village de Madobak est situé sur l'île Mentawai dans le district de Siberut Sud dans la province de Sumatra Occidentale, précisément au sud de la rivière Siberut en amont. Pour vous rendre au village de Madobak depuis l'aéroport international de Minangkabau, vous devrez vous rendre au port de Muara Padang en bus. Et ensuite, nous continuons en traversant à l'aide de bateaux à moteur. Jusqu'à l'île de Siberut, vous pouvez visiter le village par la rivière Reregget. La rivière est un accès en amont de la place de Muara Siberut en prenant environ 3 heures pour arriver au village de Madobak. Le village Madobak est situé en amont du sud de la rivière Siberut et à proximité d'autres villages tels que Ugai et Matotonan qui maintiennent également le caractère unique de sa tradition. Le village a aussi une cascade qui devient un objet touristique, notamment la cascade Kulukubuk. C'est parce que l'horaire de départ de bateau à moteur n'est que 2 fois par semaine, les visiteurs peuvent passer la nuit chez des peuples locaux. Serviteurs, c'est le magazine culturel pour ce soir. Avec le titre « Le village touristique de Madobak » dans la province de Sumatra Occidentale. Merci de votre attention. À demain.
Voice of Indonesia.
Lewati tanpa dirimu.
Secrétaire, c'était la chanson de Marcel intitulée « Une saison ». Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, l'Indonésie pour le monde. Pour la rubrique suivante, voici donc « Apprendre l'Indonésien ».
Voice of Indonesia.
Bonsoir à tous, nous continuons notre émission ce soir avec la rubrique Apprendre l'Indonésien, un programme qui introduit le vocabulaire de la langue indonésienne et vous guide de parler indonésien. Ce programme est une collaboration entre la Voix d'Indonésie et l'Agence pour le développement de la langue du ministère de l'Éducation et de la Culture d'Indonésie. Le sujet d'aujourd'hui est Salam ou en langue française, salutation. Ensuite, je vais donner un exemple de conversation ayant pour titre « Salam » ou en langue française « Salutation ». Comme d'habitude, je vais prononcer lentement phrase par phrase deux fois. Vous pouvez répéter après moi. C'est une conversation entre l'hôtesse de l'air, Tony, qui est en provenance des États-Unis, et Sinta. Ils sont dans la cabine de l'avion sur le chemin de Yogyakarta. L'hôtesse de l'air. « Selamat pagi ». En français, bonjour. Tony, selamat pagi. Je répète, selamat pagi. En français, bonjour. L'hôtesse de l'air, selamat pagi. En français, bonjour. Sinta, selamat pagi. Bonjour. Après cette conversation, je vais introduire le vocabulaire et les expressions reliant au thème d'aujourd'hui. Je vais prononcer deux fois et vous pouvez répéter après moi. Selamat pagi. Selamat pagi. En français, bonjour. Selamat siang. Selamat siang. En français, bon après-midi. Selamat sore. Selamat sore. En français, bonsoir. Selamat malam. Selamat malam. En français, bonne nuit. Pagi. Pagi, en français, matin. Siang, siang, en français, après-midi. Sore, sore, en français, après-midi. Malam, malam, en français, nuit. En Indonésie, dans un jour, et une nuit, on connaît quatre concepts de temps, c'est-à-dire matin, après-midi, soir et nuit. Les salutations données seront ajustées avec le temps. Vous pouvez dire bonjour si vous saluez au matin. Si vous saluez à l'après-midi, vous pouvez dire bon après-midi. Si vous saluez au soir, vous pouvez dire bonsoir. Et si vous saluez à la nuit, vous pouvez dire bonne nuit. Pour répondre à une salutation de quelqu'un, vous pouvez répéter la salutation qu'il donne. Par exemple, l'hôtesse de l'air dit « Selamat pagi », ce qui signifie « bonjour ». Vous pouvez répondre « Selamat pagi » ou « bonjour ». Vous pouvez aussi répondre « pagi » qui signifie « bonjour ». Exemple, l'hôtesse de l'air « Selamat pagi » en français « bonjour ». Tony « pagi » en français « bonjour ». Voici un exemple d'une hôtesse de l'air accueillant les passagers le matin, l'après-midi, le soir et la nuit avec les réponses données. Au matin, l'hôtesse de l'air « Selamat pagi » en français « bonjour ». Tony « Selamat pagi » en français « bonjour ». À l'après-midi, l'hôtesse de l'air « Selamat siang » en français « bon après-midi ». Tony « siang » en français, bon après-midi. Au soir, l'hôtesse de l'air, selamat sore, en français, bonsoir. Tony, sore, en français, bonsoir. À la nuit, l'hôtesse de l'air, selamat malam, en français, bonne nuit. Tony, selamat malam, en français, bonne nuit. Chers amis, c'était la rubrique Apprendre l'indonésien pour ce soir. Que cette rubrique soit utile pour vous qui voulez connaître davantage la langue indonésienne. Rendez-vous demain avec un autre sujet plus intéressant. Merci d'être fidèle avec nous. Au revoir. Peace. Serviteur, c'était la chanson intitulée Sadik, chantée par Citra Scholastica. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 33,25 kHz et sur le site web www.voinews.id. Serviteur, nous continuons notre programme avec les informations musicales.
Voice of Indonesia.
Bonsoir, serviteurs et auditrices, bienvenue au magazine musical qui vous informe la chanson d'Indra Utami Tamsir, une chanteuse de Kroncong. L'existence d'Indra Utami Tamsir n'a pas été longue dans le monde de musique de Kroncong. Pourtant, sa capacité dans le domaine de la musique de Kroncong était bien reçue par des amateurs de musique dans le pays. En 2016, après avoir lancé un album intitulé Wanita Indonesia ou Des femmes indonésiennes, Indra Utami Tamsir a tenu des concerts aux plusieurs villes de l'île de Java. Ce sont à Blora, Semarang, Solo, Yogyakarta, Bandung, Malang, Surabaya, Bali et s'est terminé à Jakarta. Le thème de ces concerts est même que le titre de son album Des femmes. Bon, serviteur, je vous présente la chanson d'Indra Utami Tamsir dont le titre est « Des femmes ». Bonne écoute. Thank you.
Voice of Indonesia.
Thank you.
Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie pour le monde. Sur la fréquence de 33,25 kHz et sur le site web www.voinews.id. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt!